Radio Campus, il est 6h.
3, 2, 1, top!
Top à Interville, les 17 et 24 juillet à Wallers-Saint-Rambert. L'émission culte estivale est de retour sur les antennes de France Télévisions. La production de Nagui a choisi le site nier de Wallers-Saint-Rambert pour y installer ses décors et son arène de 1500 places. Le 17 juillet, Wallers-Saint-Rambert recevra sa ville voisine, Saint-Amand-les-Eaux, pour s'affronter sur les épreuves mythiques. Pour constituer son équipe, 12 hommes, 12 femmes, une phase de sélection est organisée en public. Salvatore Castiglione, ancien maire, à l'origine de la venue de l'émission, est député du Nord.
Depuis cet été, on a pris contact avec l'équipe de production de France Télévisions, et du moins l'équipe de production d'Air Production, donc l'équipe de production de Nagui, parce qu'on savait que France Télévisions avait le souhait de remettre sur... devant le petit écran, en fait, Interville. Et bon, vous le savez que depuis 3 ans, nous, on a souhaité fédérer les équipes pour faire une espèce d'Interville ici locale, et qu'on s'est pris au jeu. Donc on s'était dit, c'était le challenge qu'on avait pour l'année 2025. Comme on n'aurait pas eu une deuxième fois la flamme olympique, qu'on n'avait pas le Tour de France, ben, qu'on allait chercher un événement encore fédérateur pour la population et aussi pour notre commune. Voilà, et c'est ainsi qu'on a fait le forcing pour récupérer Interville ici.
Un an après la flamme olympique ici à Wallers-Saint-Rambert, Interville, sport, convivialité, solidarité, il y a de ça en fait à Wallers-Saint-Rambert, et on a l'impression que chaque année il y a un grand événement qui rassemble.
Ben voilà, ça fait partie de notre volonté, de notre ADN, de faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble, qu'on puisse avoir des événements comme ça, intergénérationnels. Vous voyez ici, il y a des petits, il y a des grands, des grands-parents qui sont présents. Tout le monde est content, en fait, ce ne sont que les sélections, et pourtant il y a déjà du monde aussi, et puis je pense que voilà, on aura beaucoup, beaucoup de monde, je pense, le 17 derrière notre équipe.
La production de Nagui, Air Prod, est venue ici à Wallers-Saint-Rambert. Pourquoi ils ont choisi de tourner en direct ici leur émission ?
Ah bah parce qu'on a su leur raconter une histoire, en fait. On leur a parlé de notre patrimoine, on leur a parlé de l'attractivité de notre commune, de l'envie et du savoir-faire que l'on a pour accueillir ces grands événements. Encore une fois, voilà, je pense que ce soit SO pour le Tour de France ou pour le Paris-Roubaix, que ce soit le CIO et le département pour la flamme olympique, eh bien, on a su convaincre et on avait les arguments pour que, encore une fois, Air Production puisse faire étape chez nous. C'était pas gagné, hein. On avait l'assurance en janvier de faire partie de cette épopée 2025 pour Interville et pour le retour de Interville 2025. Après, il a fallu convaincre, il a fallu apporter des événements pour que et nous puissions avoir une manche chez nous et nous puissions remporter la finale. Je vous rappelle que pour la finale, on était en concurrence avec Disney Marne-la-Vallée. Donc voilà, on avait les atouts et on a eu les arguments pour les convaincre de venir ici.
Depuis 3 ans, il y a aussi un Interville local autour de Wallers-Saint-Rambert. Est-ce que ça a joué aussi ?
Ça jouait plus ou moins. C'était encore une fois, c'était une idée de s'amuser entre nous. Mais là, c'est un challenge supplémentaire. C'est aller confronter des équipes comme Gap, comme Beauvais, comme Saint-Amand, qui est détenteur du dernier trophée. Donc ça va être un beau match.
Et vous allez être justement contre Saint-Amand le temps d'une soirée. Deux villes qui sont justement à côté, l'une à côté de l'autre. Ça fait quoi d'affronter l'équipe historique d'Interville ?
C'est pas mal parce que c'est un challenge supplémentaire. En fait, ça sera le derby Lens-Lille. Ouais. Donc, vous voyez ? Donc nous, ça sera notre derby Saint-Amand-Wallers avec une victoire de Wallers à la clé.
C'est une ville qui arrive fin juillet ici à Wallers-Saint-Rambert avec une arène de 1500 places, des jeux, le mur des champions à côté du chevalement. L'image va être très très belle aussi pour la ville.
Je pense qu'on va avoir de très très belles images, et puis il ne faut pas oublier aussi que derrière, eh bien, il y a toute une équipe qui va travailler pendant 15 jours avec qui plus est un secteur économique qui va beaucoup travailler, puisque voilà, il y aura 3000 nuitées sur ces 11 jours qui seront dépensés, et puis un peu plus de 2500 repas. Donc voilà, on va faire travailler aussi l'économie locale et l'économie territoriale.
Pour la première épreuve, monsieur le député, monsieur le maire vont appeler 8 candidats, et on va commencer du coup par la faucheuse. D'accord, donc la faucheuse, on va vous expliquer un peu le principe, vous devez le connaître. 8 candidats qui seront positionnés sur les boudins jaunes. On va activer la faucheuse. Il faudra s'abaisser, monter. Le dernier qui reste debout remportera cette épreuve-là.
Alors, je m'appelle Serena Semedo, j'ai 20 ans. Et voilà, sportive. Donc, je joue au VAFC. Et à côté de cela, je suis en L2, droit international et européen.
Ça fait quoi de participer aux sélections d'Interville ?
Ben, c'est assez marrant. Je suis très reconnaissante d'être ici. Et voilà, je passe des bons moments.
Alors, qu'est-ce que vous venez de faire ici ? Parce que vous êtes essoufflé. Hein.
Donc, je viens de faire la faucheuse. Donc, j'ai fini avec une victoire, égalité avec une autre camarade. Ouais. Et c'était très, très dur, physiquement et mentalement. Mais ça va.
C'est quoi ? C'est du cardio ? C'est le mental ?
Alors, je pensais que ça allait être juste physique, mais en fait, c'est vraiment du cardio, comme de l'endurance, en fait. Parce que c'est pas dur de sauter au-dessus de la faucheuse, ni de se baisser, mais c'est le fait de continuer les efforts. Elle va de plus en plus vite. Et c'est du mental, avec le soleil en plus qui tape.
L'ambition, c'est évidemment de participer à l'équipe qui va représenter Wallers pour Interville National.
Oui, totalement. Là, c'est l'objectif d'aujourd'hui. On va avoir les résultats la semaine prochaine. Et là, on va voir ce que ça donne en fin de journée, mais pour l'instant, c'est bien parti.
On se dit qu'il y a les autres épreuves qui arrivent. Derrière vous, il y a le mur des champions. Petit, mais on s'y voit déjà.
Oui, c'est pas mon épreuve préférée, je pense. Mais je vais voir, peut-être que je vais être surprise. Mais c'est vrai que ce mur, il est assez effrayant.
Ça représente quoi pour vous, Interville ?
Interville, c'est un peu un rêve d'enfant. On voit ça à la télé. C'est tout ce que j'aime, s'amuser, le sport et passer des bons moments. Et voilà.
Alors, je m'appelle Adélaïde.
Et moi, je m'appelle Audrey.
Vous êtes ici sur la ligne de départ. Pour vous, ça représente quoi, Interville ?
Une bonne épreuve amusante et de la convivialité.
Qu'est-ce que vous allez faire, là ?
Là, c'est un petit parcours d'obstacles. Donc, saut de haie, ramper, structure gonflable et le plus vite possible.
Comment on s'entraîne pour ces sélections à Interville ? C'est une vraie compétition, en fait ?
Oui, un peu. C'est une petite compétition communale et c'est fun à faire. Ouais.
C'est surtout ça, c'est de l'amusement, c'est fun à faire ?
De l'amusement, du dépassement de soi et puis tout ça dans la bonne humeur, exactement. Ouais. Et représenter la ville aussi.
C'est une fierté de représenter la ville ?
Ah oui, tout à fait. Ouais. On se remémore les souvenirs d'enfance aussi à la télé.
Merci. Eh ben, bon courage !
Merci.
3, 2, 1, stop.
Le maire de la ville de Wallers-Arambert, Bernard Caron.
Je pense que ça va être un magnifique coup de projecteur pour la région sur le plan international. Relayer cette émission, relayée par France 2, avec une certaine envergure. Il y a beaucoup d'attentes, je pense, des téléspectateurs depuis des années qu'elle n'a pas été réalisée, de la voir revenir sur les antennes. Comment on va faire rayonner ? Mais je pense qu'on va organiser, certes, l'émission Interville sur le site minier, mais on va faire partager aussi un maximum les habitants en faisant un village d'animation tout autour de ces émissions.
Il y aura une fan zone.
Et il y aura sans doute une fan zone qui sera créée également. Mais c'est encore un projet, on est en train d'y travailler, on avance. C'est du travail qui est quand même d'envergure et qui demande pas mal de réflexion aussi et puis de coup de mise en place à réaliser. Et donc on y travaille, on avance bien et je pense qu'on passera des très très bons moments cet été ici à Wallers.
Le Tour de France, la flamme, cette année à Interville, il y a une vraie dimension aussi régionale aussi dans les activités locales.
Il y a une dimension, oui, tout à fait régionale, je dirais même nationale, internationale. Vous venez de citer le Paris-Roubaix. C'est une dimension, mais la dimension permet aussi de mettre en valeur la qualité des gens du Nord, je dirais, le patrimoine aussi, et tous les gens qui ont travaillé ici autour de ce site minier aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés par ces événements et cette promotion de la ville, mais aussi de la communauté d'agglomération et de la région. Ce sont des événements de très très grande portée. Et on est fiers aussi de pouvoir porter ces projets-là ici, au sein de la ville de Wallers-Arambert.
Ils veulent mettre en avant ce jeu. Mais en même temps, le patrimoine ?
le patrimoine, la convivialité, la participation, les rires, la fête, ce sont leurs souhaits, mais c'est aussi notre ADN. Et je pense que ça, entre les équipes de production et nos équipes à nous, c'est ce qui matche aujourd'hui.
Alors, il y a quelques nouveautés, pas de vachette pour le bien-être animal, et puis aussi une plus grande mixité.
J'ai senti, parce qu'on n'a pas encore la finalité des jeux qui vont être faits, mais qu'il allait y avoir une mixité qui allait être mise en place au sein des jeux. Et je pense que c'est une bonne chose.
Ça montre aussi, aux yeux de la région, aux yeux de la France, l'engouement sportif de la ville de Wallers-Arambert, ou comment, quelques mois avant, une ville peut vraiment mobiliser les habitants pour cet événement et puis aussi pour représenter aussi la région.
On est une ville attractive, dynamique et sportive. Il ne faut pas oublier qu'on a eu des prix qui ont été décernés encore l'année dernière. Je pense que le Paris-Roubaix, en termes de manifestation, nous aide à avoir un rayonnement important. Mais tout autour aussi, on a su broder des tas d'événements qui font qu'on fait perdurer ces événements-là.
Et puis vous, souvent les maires sont évidemment invités, il y a un moment où vous allez prendre la parole, vous allez quand même prendre la parole devant des millions de spectateurs, on l'espère, à côté de Nagui, sur France 2, en direct, en tant que maire. C'est vraiment satisfaisant.
Ah bah, je dirais que c'est que du bonheur. Et puis en plus, ce qui m'arrive aujourd'hui avec une élection ici depuis fin novembre et tous ces événements qu'on vit là, moi je voudrais saluer aussi le travail en amont qui a été fait par Salvatore Castiglione, mon prédécesseur, parce qu'il faut savoir qu'on va y arriver ici en juillet, mais ça fait déjà plus d'un an qu'on est déjà en contact avec les équipes pour mettre ça en place.
Vous n'avez pas le droit d'utiliser vos pieds extérieurs pour monter.
Par contre, vous pouvez utiliser vos genoux. Voilà, pour grimper. Ce qu'on veut, c'est voir la rapidité et le geste. Donc peu importe si votre binôme d'à côté il est fort ou pas, quoi.
L'émission Interville n'est rien sans son épreuve reine, le mur des champions. Pour les sélections, les compétiteurs se sont essayés, eux aussi, à gravir un mur gonflable et aller le plus haut seulement à la force de leurs bras. Certains ont réussi à franchir le sommet.
Mathieu Brunet.
Vous venez de faire ce mur des champions, c'est historique quand même de faire ce mur des champions, c'est légendaire et vous êtes arrivé en haut.
Bah écoutez, ouais, c'est la première fois que j'essaye sur un typique, sur un truc gonflable, donc c'est pas du tout la même chose que sur du rigide en bois ou quoi que ce soit, donc c'est à découvrir, à faire quoi.
On l'a vu, hein, vous êtes vraiment agile, sportif, sur toutes les épreuves, c'est quoi le secret ?
La détermination. D'arriver au but, d'être le premier toujours, c'est tout.
C'est plus qu'une finalement un simple jeu, c'est vraiment une compétition pour vous, Interville.
Quand on se lance le défi de faire Interville, c'est pour faire se donner le mieux possible, quoi.
Et en fait, ça regroupe plusieurs sports, Interville.
Bah, il ne faut pas forcément être bon dans un sport en particulier. Je pense que c'est plusieurs compétences dans chaque sport. Il ne faut pas être forcément très très musclé. Il ne faut pas être forcément avoir un cardio de fou. Je pense que c'est il faut être bon dans pas mal de sports, ça rassemble beaucoup de sports, en fait, les Jeux Interville.
Et on s'y voit déjà à Interville à Wallers-Arambert.
Ah ouais, je suis ouais. Encore mieux.
Ouais. 3, 2, 1, stop.
Sur France Télévisions, le 17 juillet prochain, Wallers-Arambert reçoit Saint-Amand-les-Eaux pour l'émission Interville. Et le 24 juillet, c'est la grande finale où les trois villes gagnantes des précédentes émissions s'affronteront au site minier d'Arambert. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Répète après moi.
Campus 106,6.
Campuslille.com. Détaché.
Campuslille.com. Oui. Non, là... Mais campuslille.com. Oui.
Encore.
Je dois encore dire. Mais ils ont compris les gens.
Non.
Ah voilà. D'accord. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus.
Pas toujours.
Ah mais si toujours.
Non.
J'ai compris. Non mais j'ai compris. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus 106,6 et sur campuslille.com.
Super.
Pardon, monsieur le métayer, si de nuit je dérange, mais je voudrais bien sommeiller au fond de votre grange. Mon pauvre ami, la grange est pleine du blé de la moisson. Donne-toi donc plutôt la peine d'entrer dans la maison. Mon bon monsieur, on ne m'a rien jeté le long des routes. Je voudrais avec votre chien partager deux, trois croûtes. Si depuis ce matin tu rôdes, tu dois être affamé. Voici du pain, des crêpes chaudes, voici du lard fumé. Chassez du coin de votre feu ce rôdeur qui n'en bouge. Êtes-vous blanc, êtes-vous bleu? Moi, je suis plutôt rouge. Qu'importe ces mots, république, commune ou royauté, ne mêlons pas la politique avec la charité. Puis le métayer s'endormit, la minuit étant proche. Alors, le vagabond sortit son couteau de sa poche, l'ouvrit, le fit luire à la flamme, puis se dressant soudain, il planta la terrible lame dans la miche de pain. Au matin jour, le gueux s'enfuit, sans vouloir rien entendre, oubliant son couteau pointu au milieu du pain tendre. Vous dormirez en paix, ô riches, vous et vos capitaux, tant que les gueux auront des miches où planter leur couteau. Vous dormirez en paix, ô riches, vous et vos capitaux, tant que les gueux auront des miches où planter leur couteau.
Drama queen lifts your laugh and cuts it in scenes. She's the most irresistible drama queen. She walks and she smiles, but she stays so keen. She lives in a lie, if you know what I mean. So put your heads down, we did it before. Heads down, back to the status quo. Heads down, you wouldn't believe. It takes as long as a heartbeat, and it will break as fast as a heartbeat. The drama queen makes her way in her dreams. She's the most incredible drama queen. She runs and she cries, but she stays so keen. She dwells by the yellow submarine. So put your heads down, we did it before. Heads down, back to the status quo. Heads down, you wouldn't believe. It takes as long as a heartbeat, and it will break as fast as a heartbeat. She's fading away, but she will not stay. And she's fading away, but she will not stay. But she is, making the show. Heads down, you wouldn't believe. It takes as long as a heartbeat, and it will break as fast as a heartbeat.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une roman, c'est d'aujourd'hui.
Nous sommes allés à la rencontre de l'artiste Pierre Hélarose. Originaire de Noyon dans l'Oise, il a participé au festival Le Printemps de Bourges le mois dernier. Un parcours inspirant et engagé.
Je suis Pierre Hélarose. Je suis chanteur, auteur, compositeur, interprète.
Donc pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire votre style de musique ?
Je fais de la chanson française avec des influences folk, rock et R&B.
Et donc vous venez des Hauts-de-France, c'est ça ? Et est-ce que là, c'est une région qui vous inspire dans vos textes ?
Je viens de Noyon, qui est une toute petite ville où il y a un couvre-feu à 1h30. Il n'y a pas vraiment de vie. Encore pour les personnes queer, jeunes. Donc moi, c'est vraiment dans les grandes villes, soit là où j'ai étudié à Rennes, soit à Paris, là où je suis booké la plupart du temps. C'est là que vraiment je vis et que je rencontre des gens qui du coup vont m'inspirer. Mais de toute façon, ce qui m'inspire le plus, c'est mes relations. C'est mes relations humaines, amoureuses, mes rencontres, mais aussi mon enfance. Je parle beaucoup de mon enfance dans mes chansons. Donc voilà les choses qui m'inspirent, mais malheureusement pas trop la région.
Et donc, à travers vos chansons, est-ce que vous transmettez un message ? C'est votre but ?
Alors, pour moi, oui. En fait, pour moi, la musique, c'est un moyen de communication. Pour moi, de la musique qui ne communique rien, de l'art qui ne communique rien, c'est pas de l'art. Sauf si le but, c'est de ne rien communiquer, mais dans ce cas-là, c'est aussi communiquer quelque chose. Bref, donc oui, je communique quelque chose, surtout qu'en plus, mon moyen privilégié, c'est l'écriture. L'écriture et la chanson, donc c'est vraiment les mots. Après, les messages que je porte, généralement, je laisse les gens définir et comprendre à leur manière le message que je porte, parce que des fois, avec une même chanson, les gens comprennent des choses totalement différentes, et ça leur appartient. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais après, c'est clair que il y a un message d'acceptation de l'autre, de la différence, de la queerness notamment, parce que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert, les queerphobies. Et donc, comme je parle de moi, je parle aussi de ça.
Et donc aussi, il y a des paroles d'une de vos chansons qui m'ont fait un petit peu tilt. Donc dans votre chanson Le Chevalier et le Prince, vous dites un amour entre garçons, mais les espoirs se font minces s'il s'agit d'un autre temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Je sais pas si vous connaissez Madame Bovary. C'est l'histoire d'une meuf qui fait cuire des romans à l'eau de rose et qui du coup s'imagine qu'elle va vivre une vie ultra romantique et qui finalement se tue parce que ça n'arrivera jamais, quoi. Bah moi, c'était un peu ça. Avec les contes de fées, vraiment, j'adore, depuis que je suis petit, les contes de fées. Et il n'y en a aucun qui parle d'amour queer. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, au final, toi aussi, t'es un auteur. Donc, t'as qu'à en écrire un tout seul. Et c'était un peu ça, Le Chevalier et le Prince. C'était l'idée de prendre une relation que j'avais vécue, tu vois, et d'en faire un conte de fées. Et donc, oui, ça parle d'un amour, d'un autre temps, au final. Où les gens sont queerphobes, mais au final ça parle d'aujourd'hui aussi, donc les hommes ont vraiment beaucoup changé.
Bébé, tu m'en demandes trop, bien que j'aime quand tu me fais. Ouh, ah, ouh, 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 ouh.
Dans votre chanson « Bien que j'aime quand tu me fais », oui, vous parlez de fétichisation, oui, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Très bonne question, merci de la poser. Alors, en gros, cette chanson, elle est née d'une discussion que j'ai eue avec une amie à moi qui est une femme transgenre. Comme je suis une personne trans, queer, femme, non-binaire. Et en fait, on parlait d'à quel point les hommes nous traitent comme des objets, parce qu'ils voient en nous qu'un fantasme, mais pas comme des personnes dignes d'amour en fait, et de plus que ça. Et en fait, on se posait la question, mais est-ce qu'un jour on aura plus que ça ? Est-ce qu'on devrait se contenter de juste féticiter parce qu'on a l'impression qu'on n'aura jamais autre chose, on n'aura jamais accès à un autre modèle relationnel ? Et c'était très glauque comme conversation. Et j'ai juste voulu faire une chanson dans laquelle je prends la voix de l'homme qui fétichise et qui objectifie. Et où je dis, bah, bien que j'aime quand tu me fais, il n'y aura jamais rien, quoi.
Je t'ai choisi, mais je n'avais pas pas imaginer ce que pour un cœur comme toi tout cela représentait.
Se lancer dans la musique en étant queer est un vrai défi. Pierre et la Rose racontent son parcours du combattant.
Il y a soit on te met dans une case et du coup on te voit que comme et on oublie ta musique. Mais soit bah, tu te dis bah, ah, peut-être que je devrais essayer de pas parler de ma queerness du coup, bah, dans une case ou quoi, mais dans ces cas-là, tu te refuses à être toi-même aussi, tu vois, et tu te refuses de t'exprimer. Et moi, c'était difficile, tu vois, moi, au début, j'étais en mode, bah, tu sais quoi, je vais venir avec juste un t-shirt, une casquette, et comme ça, on me dira pas, ah, c'est le PD qui fait de la musique, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de me présenter comme ça. Et du coup, bah, en fait, les seules personnes qui me donnaient des opportunités, c'était la communauté queer, tu vois. Au début, en tout cas, ça démarrait comme ça. Et autant ça me donnait, ça me faisait beaucoup plaisir parce que je me dis, bah, ok, ces personnes-là sont là pour moi, ils reconnaissent mon talent et ce que je propose. Mais si tu te dis, bah, en fait, c'est quand même dommage que les autres, parce que je leur ressemblais pas, en fait, se refusent d'écouter autre chose, tu vois. Parce que je sais que ce que je dis, c'est important. Je sais que ce que je fais, c'est de la qualité, tu vois. Donc, c'était assez difficile. Surtout quand tu vois, tu bosses avec des gens, tu vois qu'eux ont des opportunités. Parce que tu sais qu'eux, bah, sont plus, en fait, plus acceptables, en fait, par tout ce qui est mainstream. Ça peut être compliqué, mais bon, du coup, tu continues, tu fonces et tu forces. Et moi, à chaque fois que j'apparais, bah, je me dis, bah, en fait, j'en ai rien à foutre. Je vais être à 100%. Donc, je vais venir habiller comme j'ai envie d'être habillé. Je m'inquiète si j'ai envie de m'habiller. Si j'ai envie de le faire, je vais pas le faire, tu vois. Mais en tout cas, je vais pas me censurer par peur d'être mis dans une case. Et voilà, mon rapport à la queerness et à la musique.
Et aussi, je voulais un petit peu parler de votre processus créatif. Comment vous écrivez vos chansons? Est-ce que vous avez des rituels?
Alors, en fait, j'ai même pas de rituel. J'aimerais bien avoir des rituels. Hein. Le truc, c'est que je passe mon temps à écrire. Et de base, j'écris des poèmes. C'est-à-dire que de base, il n'y a pas forcément de musique. C'est juste, dès qu'il m'arrive un truc, en fait, j'ai envie d'écrire dessus. Et du coup, j'écris dessus. Et après, je fais une mélodie. Je compose une mélodie chantée. Et après, bah, je bosse avec des amis musiciens. Donc, par exemple, sur Mercredi, quand je me fais, il y a 3 guitares, pareil sur Glory. Et c'est Kelly Carpaille, Théo Tim Von Guerre et Alexandre Jean-Baptiste qui sont 3 guitaristes avec qui on se pose, on se dit, OK, c'est quoi le poème cette fois-ci? Et on a fait toute une musique. Et ouais, c'est vraiment ça mon processus et j'adore ça. Ouais.
Et du coup, pour revenir un petit peu sur votre parcours, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la musique?
J'ai grandi dans l'église évangélique. Dans un milieu très 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 religieux. Mon père était prédicateur, mon cousin est pasteur, mon oncle aussi. J'ai passé mon temps à l'église et tout mon temps à chanter aussi à l'église. En fait, la chanson faisait depuis tout petit partie de ma vie. On me forçait à prier tous les soirs et à chanter des chansons à la gloire de Dieu. Donc en fait, je chantais tout le temps depuis que je suis tout petit. Et j'écrivais aussi très vite écrit. La poésie, bon, ça valait rien. Enfin, c'était juste un enfant qui écrit, qui aime écrire, tout ça. Et donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais c'est vraiment après mes études que je me suis autorisé à essayer d'en faire mon métier. Et à enregistrer des chansons et à les partager. Et ça m'a déjà emmené là où je suis. Là, donc, c'est vraiment très cool. J'ai grandi dans une famille très traditionnelle où tout le monde savait que la musique, c'était mon truc. Mais c'était pas un truc sérieux, tu vois. C'est juste... Ok, il fait sa musique, il nous casse les pieds, mais tout le monde s'en fout, tu vois. Et j'ai aussi grandi dans un milieu qui est très précaire. Toi, par exemple, mes parents, ils sont en Picardie parce que, bah, exode rural, il n'y a plus les moyens de vivre en banlieue parisienne. Donc, on a habité d'abord à Creil, puis après à Noyon. Mais je vis dans un milieu qui est quand même très, 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 très pauvre. Et donc, moi, il fallait, tu vois, que je fasse des grandes études. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une école de commerce, quand même, pour vous dire. Oui, j'ai souffert. J'ai fait une école de commerce, j'ai été cadre en start-up. Genre vraiment, j'ai fait tout le truc, quoi. Et après, mais j'étais en mode, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible que c'est pas moi. Moi, je suis artiste et j'ai trop envie de partager des choses. Alors au début, je cumulais à la fois mon taf et les week-ends et la nuit, j'allais faire de la musique, j'allais chanter. Et au bout d'un moment, bah, j'ai eu c'est un peu une chance, un privilège, c'est que bah, en fait, j'ai dû commencer à refuser plein de dates à cause du taf, tu vois. Et du coup, j'ai dit, bah, you know what, je choisis la musique. Et ça m'a emmené là.
Et c'était un choix compliqué?
Pas du tout. Franchement, pas du tout, parce que... Je sais que ça marche, je sais que ça allait marcher parce qu'en fait, j'ai pas d'autre choix que ça marche parce que c'est vraiment ma vie. Genre, je peux pas faire autre chose que de la musique, c'est pas possible. Et mon projet, je le défends seul. J'ai pas de management, je suis tout seul, mais j'y crois tellement que je sais qu'il ira jusqu'au bout du monde parce qu'en fait, je m'arrêterai pas tant que ce sera pas fait. Donc voilà.
Ne le sais-tu pas qu'un jour les trompettes sonneront?
Pierre Hélarose sera en concert à Paris du 30 mai au 23 août prochain. Pierre Hélarose de la poésie en chanson, un reportage de Juliette Carlier pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
L'association La Récréation vous donne rendez-vous les 14 et 15 juin 2025 à Fléchin pour le festival d'art de rue Mais où va-t-on ? Théâtre à ciel ouvert, en forêt, cirque aérien, marionnettes sur banc public, danse percutante, concerts déjantés, entresorts participatifs, venez découvrir une programmation éclectique, joyeuse, engagée et poétique pour rêver, rire et résister ensemble. En complicité avec les habitants du territoire. Infos et programmes sur l-arrêt-création.fr.
heureux des luttes et des tournées. Éponge de comptoir, écumeur optimiste. Toi qui refais le monde à coups de muscadet et repeins d'utopie nos vieux pavillons tristes. T'en as usé des coups d'apporter le grand soir, monter des barricades en sous-boc à demi. Qu'est-ce que tu bois ? Hein ? Du blanc ? Mais ça compte pas le blanc. Qu'est-ce que tu bois ? Du blanc ? Et le blanc, ça compte pas. T'en as usé des coups d'apporter le grand soir, monter des barricades en sous-boc à demi. Les accords de Vittel n'ont pas changé l'histoire. Le nez dans l'appel fort, tu refaisais Valmy. Et tu faisais tonner ta colère noctambule qui d'âger en âger, nager dans les âgés. Qu'est-ce que tu bois ? Du blanc ? Mais ça compte pas le blanc. Qu'est-ce que tu bois ? Du blanc. Mais le blanc, ça compte pas. Et tu faisais tonner ta colère noctambule qui d'âger en âger nageait dans les âgés. Quand tu frappais du poing sur la table à bascule, tu vomissais Paris sur la nappe en papier. Et tu chantais trop fort jusqu'au bout de la nuit. L'international belge et tout Bernard Dimet. Qu'est-ce que tu bois ? Du blanc. Mais le blanc, ça compte pas. Qu'est-ce que tu bois ? Du blanc. Mais le blanc, ça compte pas. Tu chantais trop fort jusqu'au bout de la nuit. L'international belge et tout Bernard Dimet. Je me souviens surtout des femmes alanguies qui revenaient joyeuses au petit matin frais. Toi tu recrachais tout à la gueule des patrons. Ta haine, ta révolte et l'intermilitance. Qu'est-ce que tu bois ? Du blanc ? Non, non mais ça compte pas le blanc. Qu'est-ce que tu bois ? Du blanc ? Mais le blanc ça compte pas. Tu recrachais tout à la gueule des patrons. Ta haine, ta révolte et l'intermilitance. Tu déclarais la guerre au MEDEF, au baron. Au 40e demi, tu sentais bon la France. Et tu pissais très loin dans tes pompes à bascule. Le poing dans les étoiles et la main dans la main. Avec toi, nous touchions du doigt le ridicule. Mais nous étions déjà les princes de demain. Allez, qu'est-ce que tu bois ? Du blanc ? Non, non, mais ça compte pas le blanc, qu'est-ce que tu bois ? Du blanc ! Mais le blanc, ça compte pas, mais qu'est-ce que tu bois ? Du blanc ! Non, 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 ça compte pas le blanc, qu'est-ce que tu bois ? Du blanc ? Non, non, mais je t'ai déjà dit que ça compte pas le blanc, ça compte pas. Non, 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 c'est comme ça, le blanc, ça compte pas.
Odile Tullier a vécu à Saint-Sauveur, une commune située en lisière de la forêt de Compiègne dans l'Oise. Elle nous parle de ce village qu'elle affectionne beaucoup. Elle témoigne ainsi de l'évolution du milieu rural opéré à la fin du XXe siècle.
Bonjour.
Pourquoi vous voulez parler aux auditeurs de Saint-Sauveur ?
Parce que Saint-Sauveur, c'est mon pays. Il n'y a rien d'autre que Saint-Sauveur. Et Saint-Sauveur a toute une histoire.
Combien de temps avez-vous vécu à Saint-Sauveur ?
22 ans. Je suis née en 1936, je me suis mariée en 1958, et après je suis venue à Béthisy-Saint-Martin. Mais je suis toujours dans ma tête de Saint-Sauveur.
Alors vous parliez de l'histoire. Que voulez-vous dire sur l'histoire ?
Alors Saint-Sauveur s'appelait Jérôme Hénil jusque après la guerre de Cent Ans, je pense. Les Anglais était du côté de Creil et il voulait prendre le fief entre Jérôme Hénil, Saint-Yne, qui s'écrivait pas Saint-Yne comme ça, et Béthisy. Et le seigneur de Béthisy ne voulait pas, il s'est battu, les Anglais sont repartis à Creil et sont revenus une deuxième fois, mais le seigneur de Béthisy avait réuni tout son monde et les gens des environs. Et comme on est dans la forêt, mais qu'il y a des petits monts, il avait mis tout son monde dans les petits monts. Et il s'est encore battu avec les Anglais. À Saint-Sauveur, il y avait, enfin, Jérôme Hénil, il y avait une petite chapelle qui était en décrépitude, si on peut dire. Et il a posé son épée sur l'autel Saint-Michel et il a dit, si je gagne la guerre, je fais construire une église à la place de la chapelle. Et puis, ça s'est battu, les uns avaient le dessus, après c'était les autres. Et pour finir, Béthisy a gagné, enfin tout le coin a gagné sur les Anglais. Et il y a un endroit où je me souviens, parce qu'on y passait souvent quand on était gosse, on marchait quand on était jeune, il n'y avait rien, on marchait. Et entre Saint-Sauveur et Saint-Ine, la barrière, où il y a maintenant le crématorium, c'est les Champs d'Olan. Devait y avoir certainement beaucoup de blessés, de morts, et ça s'appelle toujours les Champs d'Olan. Et malheureusement, le seigneur de Béthisy n'a pas eu le plaisir de voir l'église construite, parce qu'il est mort avant, et c'est le roi, je crois que c'est Charles VII, mais je ne suis pas sûre, qui a fait construire l'église, et Jérôme Hénil est devenu Saint-Sauveur. Alors, comme il avait posé son épée sur l'autel Saint-Michel, le jour de la Trinité, donc on avait à Saint-Sauveur deux fêtes. On avait la fête de la Trinité et la fête de Saint-Michel. Alors une au printemps, une à l'automne. Dans notre coin, on est tout un coin à châteaux. Il y a des châteaux partout. Charlemagne a vécu à Verbery, a fait son château à Verbery, mais on ne peut pas le retrouver parce qu'il est dans un endroit où il y a des constructions. Il y a eu des fouilles, mais il n'y a rien eu de retrouver. Mais le château de Verbery est plus près de Saint-Sauveur que de Verbery. Et il est plus d'un genre féodal que nous. Le château du Soupisot, dans Saint-Sauveur, c'est un château Renaissance.
D'ailleurs, c'est un manoir, on va le situer, qui est situé à l'ouest du village, et il a un énorme jardin.
Oh, il y a un grand parc, un très grand parc. À l'entrée, il y a la maison du gardien, et le château est un petit peu plus loin, il y a un très grand parc. Mais à une époque, paraît-il que Edmond Rostand y a écrit L'Aiglon. Et moi, je suis napoléoniste.
Alors, vous nous parliez de la forêt tout à l'heure, Odile. Est-ce que vous vous rendiez souvent dans cette forêt à Saint-Sauveur?
On était toujours en forêt. Toutes les quatre copines, on était en forêt. À cette époque-là, on pouvait nous laisser aller toutes seules, il n'y avait pas de danger. Quand on a été un petit peu plus vieille, on avait des vélos, mais des vélos. Enfin, moi, j'avais le vélo de ma grand-mère. On allait jusqu'aux étangs de Sainte-Périne en vélo. On nous laissait partir. La plus grande avait peut-être 14 ans et la dernière avait 8 ou 9 ans. Maintenant, on ne fait plus.
Est-il vrai, Odile, qu'il existe une colline qu'on appelait ou qu'on appelle toujours la montagne de Saint-Sauveur?
Il y a le mont Claravan. Le mont Claravan, c'est un mont qui a été fait avec la terre qui a servi à construire l'église. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'échafaudage comme maintenant. Donc, on montait de la terre jusqu'à temps qu'on soit en haut de l'édifice. Une fois qu'on n'avait plus besoin de la terre, on l'enlevait. Il fallait bien la mettre quelque part. Donc, on l'a mis derrière où on habitait quand j'étais gamine. Et ça s'appelle le mont Claravan. C'est un petit mont. Il y a des arbres dessus. Mais c'est la terre qui a servi à construire l'église de Saint-Sauveur.
D'ailleurs, là-bas, on bénéficie d'une vue panoramique du village en contrebas plutôt belle.
Je ne sais pas si je peux le raconter, mais j'avais un copain qui est mort maintenant, malheureusement, qui a été enfant de cœur jusqu'au moins 14 ans. Et notre vieux père curé, qui était très sévère, était décédé. Donc, on s'est permis. Il dit, je sais où monsieur le curé met sa clé. On peut monter en haut de l'église. Il a été chercher la clé. Il dit, vous venez à 1h. Ben, vous dites, à 1h, elle était là. On est monté en haut de l'église, tout en haut. Alors là, on a une vue magnifique. Et mon copain qui était costaud, les lustres sont montés avec des tiges les unes dans les autres. Ils traversent la voûte du haut. Et de l'autre côté, ben, la tige passe, ça fait un anneau. Et il y a une tige en fer qui passe dedans. Alors il a mis ses mains de chaque côté de la tige. Et puis on entendait en dessous, ça faisait gling, 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 le lustre. Oui.
Alors, on parle d'église, mais il a existé aussi un autre type d'édifice religieux à Saint-Sauveur. C'est un temple qui est devenu depuis une habitation privée.
Oui, mais le temple, moi j'ai connu le temple marchand. Il y avait des gens de Béthisy qui y venaient, peut-être même d'ailleurs. Et j'étais à l'école avec le fils du pasteur, Guégan, qui est resté là pendant un certain nombre d'années. Ça, je me souviens très bien. Et comme après, on était habité dans ce quartier-là, je passais devant le temple tous les jours. Je suis chrétienne, donc toutes les religions qui ont rapport au Christ, pour moi, c'est la même chose. Et quand je passe à la porte du temple, ça me fait drôle que ça ne soit plus un temple.
Vous écoutez actuellement l'interview d'Odile Tuillier. Elle nous parle de la commune de Saint-Sauveur, une commune située en lisière sud-ouest de la forêt de Compiègne, dans l'Oise, où elle a résidé pendant 22 ans. Parlons un petit peu des commerces, Odile. Quels étaient les commerces qui existaient dans les années, on va dire, 60-70?
Alors, Saint-Sauveur, c'était extraordinaire. Il y avait 4 fermes. Il y avait 2 boulangers, 1 boucher. Il y avait 4 épiceries, certaines qui faisaient épicerie et buvette, d'autres qui étaient qu'épicerie. On trouvait tout ce qu'on voulait sur place. Il y avait un coiffeur, il y avait un marchand de fil, laine, tout ce qu'on voulait, mercerie. Dans nos petits villages, il y avait de tout. Maintenant, on laisse tomber les villages, il n'y a plus rien. Tant qu'on est jeune, qu'on peut conduire, qu'on peut aller faire ses courses ailleurs, ça va. Mais on devrait remettre de la vie dans les villages. Il y avait une poste aussi. Maintenant, on ferme les postes, on ferme tout dans les petits villages.
À l'époque, il faisait bon vivre à Saint-Sauveur.
Oui, oui, oui. Puis les gens se connaissaient, se parlaient. C'était le tout début de la télévision, alors tout le monde ne l'avait pas. Je vois chez nous, il y avait plusieurs voisins qui venaient. Mon maman dit « je ne peux plus rien faire ». Mon papa mettait des bancs. Quand il y avait du catch, presque tout le quartier était chez nous. On n'avait pas la radio, mais on a eu la télévision dans les premiers. Alors, on avait beaucoup de monde à la maison.
Oh oui. Saint-Sauveur, c'est aussi un club de football qui a plus de 100 ans. À l'époque, c'était très important aussi pour vous.
Ah ben oui, j'ai connu des footballeurs en plus parce que j'étais à l'école avec leur sœur. Eux, ils étaient plus vieux que nous, hein, les deux Malaisans. Deux footballeurs extraordinaires tous les deux. Et notre terrain de foot, comme on est un village dans la forêt, se trouve dans la forêt. On a tout un chemin à faire. Maintenant, on le fait certainement en voiture, mais à cette époque-là, on le faisait à pied pour aller au foot. C'était très bien.
Les années 60-70, l'église était plus fréquentée qu'aujourd'hui, en 2025?
Oui, parce que d'abord, au départ, quand j'étais gamine, il y avait un curé, l'abbé Ménara, qui faisait Saint-Sauveur et Néry, qui montait faire la messe à Néry en vélo, en soutane. Et c'était après les années 36. Si jamais il y avait quelqu'un dans un jardin qui faisait quoi quand il passait, descendait de vélo, posait la soutane, il demandait « qu'est-ce que tu veux ?» Il ne cessait pas faire. C'était un curé très droit, qui tirait des brosses. Alors l'été, il faisait ça à l'entrée du presbytère. Il parlait avec tous les gens qui passaient. À midi, il allait boire un canon avec les ouvriers qui quittaient l'usine pour discuter avec eux. À 1h30, il allait boire un café, avec les gars qui partaient en usine pour discuter encore avec eux. Il était très humain, très proche des gens. Il avait une belle cure, mais il vivait dans une seule pièce où il y avait tout, sa chambre, son bureau, tout ce qu'on veut, sa cuisine. Je sais parce que j'allais lui porter des œufs, j'allais lui porter des choses. Papa transportait du bois. Un jour, il lui commande une voiture de bois, papa lui amène. Il lui dit « qu'est-ce que je te dois, Georges ?» Je lui dis « non, monsieur le curé, vous ne devez rien. » Il dit « si ». Il dit « moi, je t'ai demandé de m'apporter du bois. Je te paye. Si tu me donnes un poulet ou si tu me donnes des œufs, je te dirai merci. Mais là, je veux te payer. »
L'église, c'est aussi des rituels avec des baptêmes, mais aussi des communions.
Les communions, c'était à 11 ans. C'est pour ça que je dis toujours que l'église de Saint-Sauveur, c'est mon église, parce que j'y ai tout fait, baptême, communion, renouvellement, et un mariage et tout. L'année d'après, on renouvelait. Et comme avec ma copine Jeanne, on faisait 5 cm par an, l'année de notre renouvellement, il y avait un évêque qui était natif de Saint-Sauveur qui est venu faire la messe du renouvellement et on était en rang au presbytère et on traversait pour aller à l'église. Et l'évêque, en passant à côté de nous, il dit « c'est pas des communiantes, vous êtes des mariés, vous !» Parce qu'on était grandes, mais c'était la vie de l'époque. on vivait plus en communauté. L'évêque était revenu dans son pays faire une cérémonie pour marquer le coup.
À Saint-Sauveur, comme dans beaucoup de communes dans l'Oise, les écoles entre les garçons et les filles étaient séparées.
On était séparés, mais on était dans la même cour, mais il y avait des classes séparées. Mais quelquefois, la directrice et son mari se partageaient les enfants. Elle était plus forte en français, lui était plus fort en calcul. Donc, on se mélangeait à cette époque-là. On restait au cours le soir, après 4h30, jusqu'à 6h du soir, on emmenait notre goûter et on faisait nos devoirs et on récitait nos leçons. Il y a aussi l'époque de l'occupation. On a eu des Allemands à l'école, on ne les a pas vus. Les classes étaient prises, donc on était dans les appartements en haut. Les tables étaient serrées les unes sur les autres. Pour aller sur les tables du fond, il fallait passer par-dessus les tables. Ça nous plaisait bien, d'ailleurs. Et puis, il y a un des Allemands qui a dit à la directrice, vous avez eu Napoléon, nous, on a Hitler. Mais je ne vois pas tellement la comparaison.
Odile Chevalier, c'était un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous, d'avoir évoqué vos souvenirs de jeunesse et d'adulte. Merci à vous.
Écoutez, c'est tout simple. Saint-Sauveur, c'est mon pays, c'est mon église, c'est mon cimetière parce que je suis enterrée là-haut, mon mari y est déjà. Et puis on va se retrouver là-haut, tous les copains et les copines, les cousins et les cousines. Et l'ancien maire qui est à l'école avec moi aussi, parce que j'ai une copine, quand ça tombe à côté de moi, elle dit on jouera aux cartes. Elle dit, j'amènerai l'apéritif. Et le maire a dit, moi, j'apporterai les petits fours.
C'était Yann Barré pour Radio Valois Mulcien. Nous étions avec Odile Tuillier. Elle nous a parlé de la commune de Saint-Sauveur, une commune située en lisière de la forêt de Compiègne dans l'Oise, où elle a vécu pendant 22 ans.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Auditeurs, auditrices, bonjour. Moi c'est Joseph.
Et moi c'est Jim.
Mais dis-moi Jim, que fais-tu ici ?
Comme toi, je suis en stage d'observation à Radio Campus.
Ah, alors tu ne fais qu'observer ?
Non, la preuve, je fais un jingle qui passera sur le 106,6 FM.
J'imagine que les auditeurs pourront aussi écouter ce jingle en DAB+.
Bien sûr, et l'on peut même retrouver des émissions en archive sur le www.campuslille.com.
Mais attention, seulement pendant 8 semaines.
Ouais.
On vous souhaite une excellente journée avec toute l'équipe de Radio Campus.
Sur ce, on vous laisse.
Ciao.
The prison was a standing.
Des villes assassines, paysages sonores qui me fait penser aux vagues fines. Quand elles touchent enfin, sans fin, le sable d'or, je suis au fond de mon jardin, mobilier de camping. Ma chaise qui se plie, se déplie dans un spin. Je sens que je suis loin de tout ce qui irrite, des angles bien coupés de mon je rabats le caquet de quelques inquiétudes. Et puis, tombant sur l'avenue, le cœur à moitié nu, je ne suis que turpitude. J'arrive au septième de mon ciel, sans doute artificiel. Le bonheur me confond en un petit brouet de femme, plutôt roue à la flamme de qui veut voir au fond de mon magie. Audacieux, ton profil est sérieux, et que de ton œil borne tu me lances. Jamais tu ne laisseras filer le cours de mes idées dans le lit des gorgones. Tu es cet oiseau exotique sur un fil électrique qui se balance au vent nonchalamment puis qui s'envole bruyamment. Pour quelle destination as-tu pris tes claquettes, tes clics?
Lorsqu'arrive la fin de ma vie, je deviens une poule au riz. Le riz est un légume noble. C'est